Une vie, une œuvre, Dmitri Chostakovitch. 1906, Saint-Pétersbourg, Empire russe. 1975, Moscou, URSS. Le père de Dmitri Dmitrievitch Chostakovitch est ingénieur et sa mère pianiste professionnelle. Elle souhaite que son fils s'initie au piano, mais ce n'est qu'à 9 ans qu'il commence. Très vite, il joue, mais aussi compose, et à 13 ans, s'inscrit au conservatoire de Petrograd, aidé par Alexandre Glazounov. Ce parcours apparemment fluide est marqué par la mort d'un de ses amis, tué par la police du tsar. À 19 ans, il écrit la première symphonie, puis Le Nez, qui lui apporte un large succès. Mais Staline se rend régulièrement au Bolchoï, et en janvier 1936, Lady Macbeth lui déplaît. Dès le lendemain, un article assassine le compositeur. C'est le début d'une période étouffante. Staline meurt en 1953. Dmitri Chostakovitch aura réussi à survivre sous ce régime totalitaire tout en construisant son œuvre. Marie-Hélène Bernard signe, avec Jean-Philippe Navarre, « Une vie, une œuvre », Dmitri Chostakovitch.
Le grand compositeur de notre temps, Dmitri Chostakovitch, est décédé à l'âge de 69 ans. Il était député du Soviet suprême de l'URSS, héros du travail socialiste, artiste du peuple de l'URSS, lauréat du prix Lénine et de plusieurs prix d'État de l'URSS. Enfant fidèle du Parti communiste, éminente personnalité sociale et nationale, l'artiste citoyen Dmitri Dmitrievitch Chostakovitch a consacré toute sa vie au développement de la musique soviétique, à l'affirmation des idéaux de l'humanisme socialiste et de l'internationalisme.
Héros du socialisme,
lauréat du prix Lénine et du prix d'État, député au Conseil suprême de l'Union soviétique.
Évidemment, Chostakovitch a eu l'avalanche d'une critique très aiguë, mais quand même, après toute cette critique, il recevait à chaque fois les prix de Staline, c'était les prix d'État à l'époque. Et il ne faut pas s'imaginer qu'on a étranglé un génie ici. Il n'y a que les gens malhonnêtes qui peuvent penser ainsi.
Membre d'honneur de l'Académie musicale suédoise, membre correspondant de l'Académie des Beaux-Arts de l'Allemagne démocratique de l'Est, membre d'honneur de l'Académie des Beaux-Arts d'Italie, membre d'honneur de l'Académie royale de la Grande-Bretagne.
C'est quelqu'un qui est né 10 ans avant la révolution d'octobre, qui l'a vécu de plein fouet, et toute sa vie ensuite est liée à l'histoire de l'URSS, puisqu'il est mort nettement avant l'écroulement du régime. Il n'a rien connu d'autre, donc c'est plutôt une vie sombre, assez noire, malgré le fait que c'était aussi un apparatchik et pas seulement un résistant.
Artiste populaire de l'Union soviétique,
Dmitri Dmitrievitch Chostakovitch.
Celui qui a des oreilles entendra. Une vie, une œuvre.
Dmitri Chostakovitch.
Merci.
J'ai gardé cette image de quelqu'un de très timide, renfermé sur soi. Et il était là comme ça avec ses lunettes qui tombaient. Il rangeait ses lunettes sur son visage. Il était une boule de nerfs.
Derrière ses lunettes se cache un homme qu'on ne connaît pas en fait, qui a du feu en lui, mais qui est contraint. Et ça se sent.
Mais en même temps, à travers ses lunettes, son regard, je l'ai enregistré, son regard. C'était un regard qui appréciait, qui jugeait et qui pénétrait.
Monsieur Chostakovitch nous fait la grande joie d'interpréter un tout petit peu d'une fugue.
Chostakovitch lors de sa venue à Paris en
1958.
Effectivement, M. Chostakovitch a commencé sa carrière en tant que musicien, mais assez rapidement, il a abandonné le piano pour se consacrer à la composition, mais il répète qu'il est particulièrement content d'exécuter ses propres œuvres.
Она была хорошей пианисткой, она училась в консерватории,
но затем вышла замуж и, значит, забросила это самое дело. А всех своих троих детей она учила играть на рояле сама и была очень хорошим педагогом для начинающих.
La mère de monsieur Shostakovich était elle-même élève du conservatoire, mais son mariage l'a empêchée de poursuivre ses activités artistiques. Mais c'est elle-même qui a été le professeur de ses trois enfants.
Personne dans ma famille n'avait la certitude que je deviendrais musicien. On voulait faire de moi un ingénieur. Je travaillais bien dans toutes les matières. J'ai étudié toujours et partout avec assiduité. Je voulais être bon élève. Cela me plaisait de bien étudier. Déjà dans mon enfance, j'aimais que l'on me parle avec respect.
La mère de Shostakovich jouait très bien du piano.
Bertrand Dermoncourt, critique musicale.
Et c'est un milieu culturel de Saint-Pétersbourg, ça veut dire vraiment une famille très cultivée. On regarde une ou deux générations en arrière, c'est une famille de socialistes, des militants, des gens qui voulaient sortir la Russie du joug des tsars. Donc Shostakovich et sa famille ont accueilli la révolution avec bienveillance au départ. Il a par exemple assisté à la fameuse arrivée de Lénine, le retour à Saint-Pétersbourg, il y était. Hein.
On considère que ce qui aurait dû constituer pour moi un grand événement a été la marche vers la gare en avril 1917, lorsque Lénine arriva à Petrograd. Cet événement a bien eu lieu. Avec quelques camarades du collège, nous avons suivi une petite foule qui marchait en direction de la gare. Mais je ne me souviens de rien. Par contre, je me souviens mieux d'un autre événement. C'était en février de la même année. On dispersait une foule dans la rue. Et un cosaque a tué un garçon à coups de sabre. Ce garçon, je ne l'ai jamais oublié.
Il vit à Saint-Pétersbourg. C'est pas des années roses, c'est pas des années drôles.
Xavier Philips, violoncelliste.
Étant enfant, on ne mangeait rien à cette époque-là, il n'y avait rien à se mettre sous la dent. Les gens disaient, tiens, bah, nous vivons de notre piano, parce que le piano était vendu pièce par pièce pour pouvoir se procurer un peu à manger.
Il y a eu des bombardements, il y a eu plein de choses difficiles. Le quotidien est très, 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 très dur. Donc, évidemment, on sait qu'il a commencé ses études, mais c'est dans des circonstances et un quotidien extrêmement difficile. Il faut qu'il gagne sa vie. C'est l'homme de la famille, hein, Shostakovich.
Vous savez, он вынужден был играть в кино, потому что в те годы.
Vous savez, il est obligé de travailler dans le cinéma.
Он очень рано потерял отца.
Parce qu'à l'époque, il a perdu son père très jeune. Il avait 13 ans.
Maxime Shostakovich, fils du compositeur.
По сильному участие.
Donc, si vous voulez, il était obligé carrément de nourrir la famille.
Et он вынужден был играть в кино.
Et il était obligé de jouer dans le cinéma.
Dans ma jeunesse, j'ai travaillé comme pianiste dans un cinéma, la Bande Lumineuse. Eh bien, j'en garde un souvenir pas très lumineux de cette Bande Lumineuse. J'avais 17 ans. Mon travail consistait à trouver des accompagnements musicaux aux passions humaines projetées sur écran. C'était très embêtant et fatigant, un travail pénible et un salaire très bas. Mais je me réjouissais d'avance de l'obtention de cette somme insignifiante. Nous étions alors vraiment dans le besoin.
Shostakovich n'est pas un compositeur qui met des années à se révéler, à se construire, à imaginer quel style il pourrait adopter. Il est tout de suite lui-même. Sa première symphonie, ça reste aujourd'hui même, à vrai dire, un grand mystère, parce que ça a été tout de suite un grand succès, puisque ça a été joué aux États-Unis, en Europe, immédiatement. C'est une musique écrite par un jeune homme de 18 ans, mais qui est déjà ambigu, assez sombre, étrange. Elle déconcerte totalement, c'est pour ça qu'elle fascine. Une fois passée la guerre civile au début des années 20, c'est l'époque où le socialisme, et en tout cas l'art socialiste, se conjugue avec les avant-gardes russes.
C'était un tourbillon artistique pendant ces années-là, les années d'après la Révolution. À l'époque, il y avait un énorme potentiel dans toutes les sphères de l'art. Grand Meyerhold, par exemple,
Mayakovsky,
formidable poète, et une énorme quantité d'autres personnalités et artistes. musiciens.
Все очень активизировались в это время.
Donc, à l'époque, et, конечно,
для Шостаковича, который был в гуще всех, так сказать, таких, в гуще артистической жизни.
Évidemment, pour Шостакович, qui était carrément dans ce tourbillon de la vie artistique de l'époque dans le pays, il était important d'avoir contact intime avec ces gens-là. Il les enrichit, eux, ils l'ont enrichi, c'était une vraie vie.
Peu après la Révolution, au fond, il y a une grande liberté d'expression. C'est une période qui permet aux compositeurs d'aller approfondir des langages qui sont peut-être parfois très avant-gardistes.
Constance Frey, musicologue.
Un peu à l'image de ce qui se passe en Europe. Et c'est ce qui, évidemment, va poser problème et va être ensuite censuré. On va rétrécir l'angle de vue. Je pense que sur la question de l'image, donc des artistes reliés à l'expression picturale ou au graphisme, ou dans le domaine du théâtre, dans le domaine du cinéma, la pression avait déjà été sentie bien auparavant. La musique, elle, bénéficie d'un sursis par son langage qui demande en fait une grande connaissance musicale, donc des compétences que, au fond, les membres du parti n'ont pas toujours, de toute évidence.
Shostakovich avait à la fois une prédisposition pour le théâtre, puisqu'il a écrit de nombreuses musiques de scène, et aussi pour l'opéra, qui est évidemment le lien naturel qu'on peut faire entre la musique et le théâtre. Il a écrit deux opéras, un totalement fou d'après Gogol, Le Nez, qui est l'histoire d'un major qui perd son nez et qui passe 2h30 à essayer de le retrouver et au milieu d'un capharnaüm extraordinaire. Enfin bon, c'est une œuvre d'avant-garde qui reste d'une fraîcheur incroyable et qui est beaucoup jouée. Et après, un petit peu plus tard, il a toujours pas 30 ans, il va écrire un deuxième opéra qui est Lady Macbeth de Lipzinck.
La chanteuse Galina Vishnevskaya, amie de Shostakovich, se souvient.
Et Shostakovich, quand il a commencé à écrire cette opéra,
lorsque Shostakovich a commencé à écrire cette œuvre, c'était une période absolument fantastique de son existence. Il était terriblement amoureux de celle qui devait devenir sa femme,
Nina.
S'appelait Nina.
Она потом стала его женой.
Elle est devenue sa femme.
Совершенно безумно.
C'était vraiment une époque d'amour fou.
И всю свою молодость,
toute sa jeunesse,
весь свой гений,
tout son génie, tout son tempérament, toutes ses passions.
Все выплеснуло вот в эту оперу.
Tout a été déversé dans cette opéra.
Et tout son счастье.
Et tout son bonheur.
Я думаю, что это, в общем, единственное его сочинение, где он такой, каким создал его Бог.
Et je crois que c'est la seule œuvre où il est vraiment tel que Dieu l'a créé, lui.
C'est un succès immédiat. Les critiques sont dithyrambiques. On dit que depuis Tchaïkovski, on n'a pas connu un génie comme ça en Russie. Il est joué partout en Russie. Il y a plusieurs mises en scène dès le premier mois. Il est joué aussi à l'étranger. Et pendant les deux premières années, il y a environ 200 représentations de cette œuvre, donc ce qui est vraiment un succès extraordinaire. Comme si un film était repris partout dans le monde tout de suite. Vous allez me dire c'est banal, mais pour l'opéra c'est moins banal. Et puis, Staline invente ce succès. Staline va régulièrement au Bolchoï pour voir surtout des spectacles de ballet, mais là il décide d'aller à l'opéra pour voir l'œuvre de ce jeune génie soviétique, Dmitri Shostakovich.
Иосиф Райскин, музыколог.
Staline a assisté à une seule représentation de Lady Macbeth de Mtsensk le 26 janvier 1936 au Bolchoï.
Его посадили в ложу
On l'avait installé dans une loge de côté, près de la scène, à côté des cuivres, trombones, trompettes, qui lui sifflaient littéralement dans les oreilles.
L'auditeur de cet opéra se trouve d'emblée étourdi par un flot de sons intentionnellement discordants et confus. Des bribes de mélodies, des ébauches de phrases musicales qui sombrent, s'échappent et se perdent à nouveau dans le tintamarre, les grincements, les glapissements.
Staline déteste. Il trouve le sujet extrêmement choquant puisqu'il y a une scène de coït au premier acte qui passe pas inaperçue évidemment puisqu'elle est mise en scène de manière assez naturaliste au Bolchoï et en plus la musique mime l'acte sexuel. Donc c'est l'horreur et dès le lendemain en fait Staline commande un texte qui n'est pas de lui mais qui est écrit dans la Pravda où on dénonce l'horreur de cet opéra et où on menace directement Chostakovitch.
Il s'agit d'un chaos gauchiste remplaçant une musique naturelle, humaine. La faculté qu'a la bonne musique de captiver les masses s'est sacrifiée sur l'autel des vains labeurs du formalisme petit bourgeois, où l'on fait l'original en pensant créer l'originalité, où l'on joue à l'hermétisme. Un jeu qui peut très mal finir.
Solomon Volkov, auteur du livre « Témoignages », Les mémoires de Chostakovitch.
Lorsque Staline décidait que quelqu'un était indigne, il pouvait le déporter en une nuit. Il a détruit et en même temps il pouvait glorifier les personnalités artistiques à volonté. Et les journaux de Moscou pouvaient détruire même celui qui était le plus sûr de lui. En une nuit, il disparaissait en Sibérie.
Lucia Catala, éditrice.
Chostakovitch, son œuvre et son être a été cassé en 36 par le fameux article de la Pravda qui s'appelait le Galimatia musical et qui était en réalité, on savait que c'est la formule de Staline.
Pour lui, la vie s'arrête. Sa musique est rapidement interdite. Les œuvres qu'il avait en cours sont interdites, annulées. On les retire et pendant plusieurs années, il va vivre un véritable enfer, puisque après cette affaire Lady Macbeth qui déclenche d'autres affaires du même type dans la littérature, dans le cinéma, c'est l'époque de la grande terreur stalinienne.
Il y a des gens à propos desquels on ne peut pas dire est-il bon ou est-il mauvais ? Est-il vaillant ou est-il lâche ?
Discours de Staline. Avril 1937.
Est-ce qu'il est pour le peuple jusqu'au bout ou est-ce qu'il est pour les ennemis du peuple? Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des fonctionnaires comme ça. Il y en a chez nous aussi, chez les bolcheviks. Vous le savez, vous-même, camarades. Comme on dit, dans chaque famille, il y a des monstres.
Tout ce qui s'en suivit se passa comme dans un mauvais rêve. L'appellation « ennemi du peuple » me suivait partout. Il n'est pas nécessaire d'expliquer ce que cette appellation signifiait à cette époque. Tout le monde s'en souvient. On me traitait d'ennemi du peuple aussi bien en privé qu'à haute voix du haut de la tribune. Un journal annonça un de mes concerts ainsi. Aujourd'hui doit avoir lieu le concert de l'ennemi du peuple Chostakovitch.
Lui-même pense qu'il va disparaître, hein, mais la chance qu'il a eue et qui lui a sauvé la vie, c'est que la personne qui l'interrogeait a elle-même disparu. La semaine après le premier interrogatoire. Donc, Chostakovitch était convoqué et le deuxième interrogatoire n'aura jamais lieu puisque son policier afférent est lui-même victime des purges. Suite à cette affaire, il va devenir extrêmement craintif, son caractère sera altéré.
Yuri Lyubimov, metteur en scène.
Il sortait sur le palier, la petite mallette à la main. Dans cette mallette, il y avait son linge de corps,
la brosse à dents et le savon. Il restait jusqu'au petit matin devant l'ascenseur parce qu'il avait tellement peur qu'on l'embarque devant sa famille, devant sa femme et ses enfants. Et pour ne pas leur faire du mal, il restait pendant des heures sur le palier près de l'ascenseur. Il pensait qu'on allait l'arrêter d'une minute à l'autre.
Mais il continuait quand même à composer. Alors, il a composé une partie de son œuvre sous le manteau, c'est-à-dire que c'est des œuvres qu'on a découvertes sur le tard ou qui avaient un faux numéro d'opus, par exemple son concerto pour violon numéro 1 qu'il a écrit dans les années 40, on l'a connu plus tard, après la mort de Staline, avec un faux numéro pour ne pas faire croire que ça avait été écrit avant. Il y avait plein d'astuces, il y a aussi des œuvres qu'on a vraiment découvertes après sa mort.
Cette musique est chargée de ça, elle est chargée de cette angoisse.
Xavier Philips.
Et par moments, et c'est ça qui en fait une très grande musique, c'est qu'il y a des moments de bonheur, fugaces. Il y a des éclairages comme ça dans la musique qui sont à pleurer, parce qu'on est parfois dans un tel marasme, ou une telle ironie, il y a un sarcasme aussi, cette façon de ricaner, cette façon de dire, voilà, vous m'obligez à faire des choses, vous m'obligez à penser de cette façon-là, mais ce n'est pas comme ça que je vois la vie. Et voilà, comme je la vois. Là, vous pouvez vous repaître de ça, mais en fait, derrière tout ça, moi, je dis ma vérité. Et par moments, il y a ces espèces d'éclairages, comme dans la cinquième symphonie, qui est quand même très plombé, quoi. Et le final, que les imbéciles de l'époque avaient connoté comme très optimiste, avec une vision très optimiste, comme ça, est en fait pas du tout. Justement, c'est une totale erreur de lecture. C'est sa façon à lui de dire, voilà, vous voulez quelque chose, vous imposez un schéma, je vais vous donner ça. Il le donne avec une telle rage derrière ce côté apparemment positif. Il y a une telle rage derrière que c'est encore plus glaçant finalement que toutes les notes les plus sombres de la symphonie.
Et soudain, la guerre arriva. La vérité, c'est que la guerre a été un soulagement. C'était très, très dur. Mais c'était encore plus dur avant la guerre. Parce que chacun était seul avec ses douleurs. Il fallait pleurer silencieusement sous la couverture pour n'être vu de personne. Tous se craignaient mutuellement. Avec la guerre, le malheur devint commun. On pouvait en parler. On pouvait pleurer ouvertement les morts et les supplicier. Les gens cessèrent d'avoir peur des larmes.
Il se sent en union avec son pays, avec son peuple, avec tout. Et sa septième symphonie est là-dessus, vraiment rendu, disons, l'hommage à tous ceux qui se sont battus pour sa patrie.
Il y a une heure, j'ai terminé deux parties d'une grande œuvre symphonique.
Shostakovich appelle à la radio de Leningrad, septembre 1941.
Si l'œuvre est réussie, si j'arrive à terminer les troisième et quatrième parties, on pourra l'appeler la septième symphonie. Mais pourquoi je vous informe de tout cela? Pour que les auditeurs qui nous écoutent à l'heure actuelle sachent que la vie de notre ville suit son cours habituel. Tout le monde œuvre pour la guerre. Musiciens soviétiques, mes frères d'armes, mes amis, n'oubliez pas le grand danger que court notre art. Défendons notre musique, travaillons de façon honnête et courageuse.
Il est réhabilité par le régime. Un microfilm envoyé via l'Afrique arrive aux États-Unis. La symphonie est jouée par Toscanini et retransmise à la radio de New York partout, en Europe aussi. Et cette œuvre devient vraiment l'emblème de la résistance de Leningrad au bombardement et au siège des nazis.
L'exécution de ma septième symphonie à Leningrad pendant le siège représente une page héroïque de notre vie musicale soviétique, de nos musiciens soviétiques. On a pu réunir un orchestre complet. La septième symphonie exige un très grand orchestre. Le formidable Karl Ilyich Iliasberg a dirigé la symphonie qui a été écoutée dans cette salle, je dirais, immortelle de la Philharmonie de Leningrad. Cette présentation de ma 7e symphonie a provoqué un grand retentissement dans tout notre pays et parmi les habitants de Leningrad. C'était inoubliable.
Il paraît que même les Allemands ont été impressionnés.
Oui, oui, malgré la situation désastreuse dans laquelle se trouvait Leningrad à ce moment-là, la symphonie a été jouée et c'était remarquable. Vraiment, sans complaisance du fait que c'était des temps difficiles, tout était très bien joué.
Après la guerre, le peuple et Chostakovitch vont revivre un peu une nouvelle terreur.
Bertrand Dermoncourt.
De nouveaux décrets vont tomber contre les artistes pour un contrôle accru des œuvres qui doivent toutes se mettre au service du régime et du peuple. Pour Chostakovitch, ça veut dire à nouveau des interdictions de jouer sa musique, à nouveau des œuvres mises au tiroir et à nouveau une attente de jours meilleurs.
Staline avait confié à Jdanov le soin de constituer la liste des principaux criminels. Jdanov opérait comme un bourreau expérimenté. Il dressait les compositeurs les uns contre les autres. Personne ne voulait être sur la liste, donc on a trituré la liste dans tous les sens. On y inscrivait les uns, on rayait les autres. Seuls deux noms restaient immuablement aux places d'honneur. Numéro 1, mon nom. Numéro 2, Prokofiev. Sur le moment, je croyais bien que c'était la fin. Les partitions imprimées étaient détruites. À la radio, on détruisait les enregistrements des œuvres formalistes. Et Krenikov déclara « C'est fini et pour toujours. Le serpent formaliste ne relèvera plus jamais la tête. »
Yuri Lyubimov.
Ses élèves devaient dire des discours et devaient dire que ils ont pris les cours chez un formaliste qui ne leur a rien appris, qu'il fallait qu'ils réapprennent de nouveau des choses, et c'était pareil pour Dimitri. Il sortait sur le plateau, était obligé de dire pareil. Vous savez, vous avez absolument raison. Toutes les critiques étaient bonnes. Tout ce que j'ai écrit, personne n'en a besoin. Personne n'en a besoin, ni le parti, ni le pays, ni le peuple. Je vais tout refaire maintenant, de nouveau. Je veux tout repenser, refaire une nouvelle musique. Je veux faire une musique toute simple pour que le peuple comprenne. Voilà, c'est tout.
Au moment où Staline l'appelle, je crois que c'est en 1949,
Constance Frey,
au lendemain de la réunion de l'Union des compositeurs, qui lui demande de partir aux États-Unis pour représenter ce courant artistique musical de l'Union soviétique, eh bien, Chostakovitch est bien emprunté puisque ses œuvres sont mises à l'index et en même temps lui demande de valoriser son pays.
Ce voyage en Amérique était très dur pour lui parce que c'est Staline qui l'a forcé à y aller.
Maxime Chostakovitch.
Parce qu'il l'a envoyé en tant que symbole d'un artiste libre. Et c'était tellement horrible, tellement tendu pour lui, parce qu'en fait, il comprenait que même une parole mal prononcée, au retour, ça lui coûterait la vie à lui et à toute sa famille.
Au fond, Staline joue un jeu qu'il a l'habitude de jouer, c'est-à-dire qu'il fait semblant de ne pas être au courant, en tout cas de ne pas être à l'origine de la censure ou de la mise à l'index. Donc ça veut dire que, simplement qu'il est pris dans les taux. Et à la fois, pour des questions de survie, il est bien obligé de se soumettre.
Il
comprenait très bien que dire la vérité, c'est en fait signer son décret de mort.
Обвинительным заключением, понимаете, собственное адрес по возвращении.
C'est pour ça qu'il a vraiment mal vécu. Il savait très bien que le monde le regarde. Mais malheureusement, qu'il ne peut pas dire ce qu'il pense.
Il s'en sort en écrivant une cantate, qui n'est pas sa meilleure musique, je dois dire, qui s'appelle Le Chant des Forêts, qui est une œuvre qui parle du reboisement de la Sibérie, qui est une ode à Staline, en fait. Hein. Et en même temps, il écrit un concerto pour violon extrêmement tragique, où il arrive à déverser tout son fiel, d'une certaine manière. Et il écrit aussi une cantate qui parle directement de Staline, qu'on a découvert bien après sa mort, hein, au moment de la Perestroïka, dans les années 80. Rayok, qui est une œuvre incroyable, où il règle ses comptes avec tous ses apparatchiks, et Staline en particulier.
Et là, c'était vraiment une pièce pour le tiroir.
Oui, il a même pris des risques en la gardant. Parce que si on avait découvert ça, je pense qu'il disparaîtrait.
Camarades, les compositeurs écrivent toujours une musique réaliste. Alors que les compositeurs antipopulaires écrivent toujours une musique formaliste. Et on peut se poser la question.
Pourquoi les compositeurs populaires écrivent une musique réaliste
alors que les compositeurs antipopulaires écrivent toujours une musique formaliste.
Les compositeurs populaires écrivent toujours une musique réaliste
parce que, étant réaliste par nature,
ils ne peuvent donc écrire une musique autre que réaliste. Alors que les compositeurs formalistes,
étant antipopulaires par nature,
ne peuvent écrire de musique autre que formaliste.
Le problème
qui se pose à nous
consiste donc à encourager les compositeurs populaires
à persévérer dans la voie du réalisme,
alors qu'il faudra interdire
une fois pour toutes aux compositeurs antipopulaires
toutes leurs douteuses expériences dans le domaine de la musique formaliste.
On décèle vraiment chez lui une sorte de double langage, d'une certaine manière, c'est-à-dire le désir vraiment...
Grégoire Tosseur, musicologue.
...produire des œuvres personnelles qu'il crypte parfois, dans lesquelles il dissimule justement des citations, des messages. Sa fameuse phrase qui dit « Celui qui a des oreilles entendra » témoigne bien de cette idée que si on cherche derrière les notes et que l'on entend correctement la musique, on peut déceler ce message. Et puis d'un autre côté, on a effectivement un compositeur qui est asservi, qui est assujetti par le régime stalinien, et puis même encore, d'une certaine manière, dans les années 50 et 60, et où les œuvres de commande correspondent à une sorte de langue de bois musicale, où il est obligé de développer des thématiques qui ne sont pas les siennes, où il est obligé de mettre en musique des mots qu'il n'a pas choisis, pour justement éviter la censure. Et donc il y a une sorte de schizophrénie.
Lettre à Isaac Glickman, 31 mars 1957, Bolchevo. Cher Isaac Davidovitch, ma vie est très agitée. Je perds beaucoup de temps et n'arrive toujours pas à me consacrer comme il faut à la 11e symphonie. Ces jours-ci, j'assiste au congrès des compositeurs, j'écoute des orateurs de toutes sortes. Surtout, j'ai apprécié le discours du camarade Loukine. Il a rappelé au congrès les consignes inspirées de Jdanov selon lesquelles la musique doit être mélodieuse et plaisante. Malheureusement, a dit le camarade Loukine, nous n'obéissons pas à cette consigne inspirée. Le 29 mars, Zanderling a très bien dirigé ma 5e symphonie et mon concerto pour violon avec Oistrakh. Ma vie en bref, je suis très occupé. Ton Dimitri Shostakovich.
Lui a eu de bonnes conditions malgré toutes les remontades qu'il a pu avoir et les procès publics, etc., qui étaient certainement impossibles à vivre, mais les conditions matérielles qu'il avait étaient meilleures. Il a été député plusieurs fois, il s'est occupé... l'association des compositeurs. C'était des responsabilités qu'il préférait avoir lui, pensant qu'un apparatchik serait moins juste, certainement, que lui-même.
Irina Shostakovich, dernière épouse du compositeur.
Dmitri Dmitrievitch était député de Leningrad. Il était aussi député de la ville de Gorki.
Сейчас он называется Нижний
Новгород. Нижний Новгород aujourd'hui.
Был тогда закрытый город, где было много лагерей.
Là-bas, il y avait beaucoup de camps.
И
Et en outre, beaucoup de problèmes de logement. Tout cela pour lui était lourd. Parce que les gens venaient lui parler de leur malheur, lui demander son aide. Il ne pouvait pas toujours les aider. Les prisonniers lui écrivaient de là-bas pour qu'il intervienne en faveur de leur affaire, du réexamen de leur affaire. Ils écrivaient au sujet de leurs conditions de détention, qui étaient très dures, ou sur des questions de droit. Les membres de leur famille écrivaient aussi, les parents. Et lui envoyait des lettres de recours. Et de là-bas, on lui répondait que si les gens étaient jugés coupables, c'est qu'il y avait de bonnes raisons.
Juillet 1960. Cher Isaac Davidovitch, je suis rentré de mon voyage à Dresde. Là-bas, on m'a créé des conditions de travail idéales. J'ai habité dans la ville de Görlitz, un endroit d'une beauté indicible. Les bonnes conditions de travail ont porté leurs fruits. Là-bas, j'ai composé le 8e quatuor, un quatuor idéologiquement condamnable et dont personne n'a besoin. Je me suis dit que si je mourais un jour, personne ne songerait à écrire une œuvre à ma mémoire. Aussi ai-je décidé de l'écrire moi-même. On pourrait mettre sur la couverture « Dédié à la mémoire de l'auteur de ce quatuor ». Le thème principal est constitué des notes D, ES, C, H, c'est-à-dire mes initiales. Le pseudo tragique de ce quatuor est tel qu'en le composant, j'ai versé autant de larmes qu'on perd d'urine après une demi-douzaine de bières. J'ai donné mon quatuor à recopier et j'espère commencer à le répéter avec le quatuor Beethoven. À toi mes meilleures salutations, ton Dmitri Shostakovich.
Valentin Berlinski, du quatuor Borodine.
Tout ce qu'il souhaitait était indiqué très précisément dans ses partitions. Il suffisait de respecter scrupuleusement ce qui était indiqué pour faire ce qu'il voulait. À l'exception des indications métronomiques, il nous disait « ne faites pas attention ». À la maison, mon métronome est détraqué.
À l'époque, je pense que c'était un bon vieux Maelzel mécanique, et on sait très bien que ces métronomes qui font tac, 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 ne peuvent pas donner une véritable pulsation.
Xavier Phillips.
Mais comme disait Rostropovitch, justement, en montrant son ventre, il disait la pulsation, c'est là. Rostropovitch est né en 27, Shostakovich en 1906. Et Rostropovitch le vénérait. C'est-à-dire qu'il avait développé une véritable relation humaine avec Shostakovich. En tout cas, lorsque Shostakovich a écrit le premier concerto, il l'a invité à travailler la partition. Il lui a dit, voilà, si ça vous intéresse, je vous donne mon premier concerto, je viens de le finir. Et Rostropovitch l'a monté en 3 jours. Shostakovitch était enchanté. Et je crois qu'il l'a joué une première fois. Shostakovitch lui a proposé de le rejouer une deuxième fois. Et puis après, je crois qu'ils ont ouvert une bouteille de vodka et ils ont fini la bouteille de vodka ensemble. Lorsque j'ai joué ce concerto pour Rostropovitch, la première chose qu'il m'a dite, c'était, ça parlait de l'énonciation, le terme est bien choisi, l'énonciation du thème, du premier thème. Pom pom pim pim, pom pom pim pim. Il m'a arrêté tout de suite. Et il m'a dit, mais non, laisse-moi te montrer quelque chose. Et il a pris une feuille de papier, il a tracé des lignes comme ça, pour faire une portée musicale. Et il m'a montré la ponctuation qu'il y avait au-dessus de ces quatre notes. Pop, pop, pipi. Et en fait, il a dit, voilà, ça, c'est ce que m'a envoyé Shostakovich. Shostakovich m'a envoyé une lettre comme ça pour me faire comprendre qu'il voulait qu'on joue ce thème avec cette longueur d'archet-là. Et au-dessus de chaque note, il y avait un point surmonté d'un trait. Et c'est une notation que j'avais jamais vue ailleurs. Et ça voulait dire, ça ne doit être ni piqué, ni collé. C'est un détaché, louré. Je ne sais pas comment on peut le qualifier. Mais en aucun cas, ce thème ne doit être joué de manière piquée, comme on entend d'ailleurs, systématiquement. Il faut du poids, voilà, il faut du poids. C'est pam pam pim pim, pam 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 pim pim. C'est parler, en fait. C'est une chose qui est parlée, qui est chuchotée, qui vient de l'intérieur de la poitrine. Rostropovitch a utilisé 20 bonnes minutes pour me faire comprendre ça.
Shostakovich, c'est un homme très renfermé, de caractère assez difficile peut-être, qui avait très peu d'amis.
Lucia Catala.
Et qui vivait dans sa musique, par sa musique et pour sa musique. C'est un homme complètement dépassé au point de vue politique, parce que ça, il était obligé de vivre dans ce pays-là, qu'il aimait. C'est un homme qui ne comprenait pas pourquoi lui, qui fait l'œuvre musicale, on lui pose des questions politiques.
En fait, il s'oppose régulièrement au régime. Simplement, il le fait parfois de manière détournée. Par exemple, il écrit sur des poèmes juifs, qui à l'époque des purges après la guerre était une véritable provocation. C'est aussi une œuvre qui est pour le tiroir. Toutes les citations juives qui émaillent son œuvre à partir de ce moment-là sont une dénonciation de l'antisémitisme de l'URSS.
Mes parents considéraient l'antisémitisme comme un préjugé honteux. J'ai reçu une éducation bien définie dans ce sens. Il m'est arrivé par la suite de rompre avec des gens très proches lorsque je remarquais en eux des tendances antisémites. Pour moi, les Juifs sont devenus un symbole. Ils ont concentré en eux toute l'inaptitude de l'homme à se défendre. Après la guerre, j'ai essayé de transmettre cette sensation dans mes œuvres. C'était une mauvaise période pour les Juifs. Mais pour eux, c'est tout le temps la mauvaise période.
Bertrand d'Hermoncourt.
Il y a aussi cette œuvre, la 13e symphonie, Babillard, qui dénonce les pogroms et l'antisémitisme aussi avec beaucoup de force, et qui dénonce aussi la vie en URSS du temps de Khrouchtchev, par ironie et par des exemples mis en musique. Et donc ça, c'est une œuvre qui est à part dans les symphonies de Shostakovich parce qu'elle a un texte. Toutes les œuvres précédentes de Shostakovich qu'on connaissait, en fait, étaient des dénonciations, mais qui étaient cachées, puisque la musique ne parle pas par définition. Là, elle parle puisqu'il y a un texte, un poème, qui est une vraie dénonciation.
Je deviens un long cri silencieux, au-dessus des milliers et milliers d'ensevelis. Je suis chaque vieillard ici fusillé. Je suis chaque enfant ici fusillé. Rien en moi, jamais, ne pourra l'oublier. Il n'y a pas de sang juif dans mon sang. Mais sur moi pèse la hideuse haine de tous les antisémites, comme si j'étais un vrai juif. Et voilà pourquoi je suis un vrai russe.
Cette symphonie a eu un destin tragique.
Irina Shostakovich.
Puisqu'ensuite, on a obligé Dmitri Dmitrievitch à faire des corrections. On n'a pas laissé exécuter l'œuvre, l'éditer, l'enregistrer. Il a rencontré beaucoup d'obstacles pour la faire jouer. Par exemple, au dernier moment, les solistes étaient pris le jour dit.
C'est un pugilat énorme, on essaie d'interdire, mais on n'y arrive plus. La médiatisation de Chostakovitch est telle qu'on ne peut pas se permettre. À nouveau, c'est l'époque aussi où Solzhenitsyn arrive à faire publier ses œuvres à l'étranger. Les temps ont changé quand même en URSS.
Novembre 1966. Cher Isaac Davidovitch, le 5 novembre, je suis sorti de l'hôpital où j'ai passé 18 jours. Pendant mon séjour, j'ai été examiné par le professeur Michelson, un chirurgien, et le professeur Smith, neurologue. Tous les deux se sont montrés très contents de mes bras et de mes jambes. Après tout, le fait que je ne puisse pas jouer du piano, que j'ai tout le mal du monde à monter les escaliers, n'a aucune importance. On peut se passer de piano et monter les escaliers, quelle idée. Les autres dépenses physiques, apparemment, me sont également inaccessibles. Je pense que je ne pourrai pas venir à Leningrad à la première de mon concerto pour violoncelle. Je suis bien trop faible. Et partout, y compris dans la grande salle du conservatoire, il y a des escaliers. Bien sûr, cela me rend très triste. Ton Dimitri Chostakovitch.
Chostakovitch a toujours eu une santé extrêmement fragile.
Grégoire Tosseur.
Il sent la pesanteur de la mort chez ses amis, sa famille, mais aussi pesée sur lui, puisqu'il connaît beaucoup de ses jours à l'hôpital. Il est soigné pour différents problèmes, et il a des crises cardiaques, plusieurs, il est soigné pour un cancer du poumon, etc. Donc il a cette emprise de la mort qui peu à peu pèse sur lui d'une certaine manière. Et il en vient, dans ses 10-12 dernières œuvres, à développer ce thème de la mort à travers des mises en musique, donc des œuvres vocales, mais aussi à maintenir finalement cette thématique à travers des œuvres instrumentales, des quatuors et des symphonies.
La peur de la mort est peut-être le sentiment le plus puissant qui soit. Je me dis parfois qu'il n'existe pas d'émotion plus profonde. Mais l'ironie est que c'est sous l'effet de la peur de la mort que les hommes écrivent des vers, de la prose et aussi de la musique. C'est-à-dire qu'ils essaient de consolider leur lien avec les vivants et d'accroître leur influence sur eux.
De son style des années 40 et 50 qui est souvent assez chargé, qu'on pourrait même parfois qualifier un peu de pompeux, de pompier même peut-être, de ce style-là, il se dirige vers une épure, une orchestration beaucoup plus raréfiée. Il se dirige aussi vers la lenteur, c'est-à-dire que de ses mouvements implacables, de scherzo notamment pour lesquels il était très connu, il se dirige plutôt vers des mouvements lents, voire très lents. Et puis il travaille aussi sur la mise en musique de la nostalgie, du regard en arrière, du retour sur soi, de l'introspection, puisqu'en fait il va utiliser dans ses œuvres soit des citations de ses propres œuvres, comme s'il regardait en arrière sur sa propre production, soit citer une sorte de musée musical qui serait le sien, en citant des compositeurs qui lui sont chers, par exemple Wagner, par exemple Tchaïkovski, où la citation la plus célèbre et la plus connue est sans doute celle de la sonate au clair de lune de Beethoven dans le tout dernier mouvement de sa dernière œuvre, la sonate pour alto opus 147.
Lorsque je parlais avec lui, j'étais complètement ému et stupéfait par son immense connaissance de la littérature et sa compréhension des arts en général. Evgeny Evtushenko, poète. Mais en même temps, je n'aimais pas les articles qu'il a écrits à propos des arts. Une fois, je lui ai demandé pourquoi il signait de telles inepties. Il m'a dit, écrire des lettres, c'est pas mon genre. Je ne mens jamais en musique, ça suffit. Puis il m'a montré une lettre qu'il était sur le point de signer. Il a dit, je sais que c'est indigne de signer des choses pareilles, mais je signerai, ça n'a pas d'importance, j'en ai déjà signé tellement. De toute façon, je suis un homme brisé. Non, vous n'êtes pas brisé, je lui ai dit, et il ne faut pas que vous abandonniez et que vous brisiez les autres. Alors, en ma présence, il a appelé la secrétaire, il lui a rendu la lettre, et il lui a dit, dites-leur que je ne signerai pas.
À la fin de sa vie, en fait, il continue de faire tout ce qu'il avait fait depuis le début, c'est-à-dire qu'il ment. Alors, il signe des lettres à l'envers. Sa signature, on peut le voir dans les documents, est à l'envers. Il a eu peur toute sa vie, et pendant toute sa vie, il continuera à mentir pour pouvoir continuer à écrire et à témoigner.
Il y a une chose importante qui me disculpe. Je n'ai jamais flatté avec ma musique ceux qui étaient au pouvoir. Et je n'ai jamais eu de flirt avec eux. Je n'ai jamais été un courtisan. Je sais bien que certains me le reprochent. Ils disent que je me tenais trop près des autorités. C'est une illusion d'optique. Ce qui n'a pas eu lieu, n'a pas eu lieu. D'ailleurs, le plus simple est de voir les faits. Lénine, on le devinera facilement, n'a jamais entendu ma musique. Et s'il l'avait entendue, je doute fort qu'il l'eût aimée. Il n'y a pas lieu ici de parler de Staline, Jdanov et Khrouchtchev. La réprobation de ces chefs envers ma musique est connue de tous.
Il y a une sorte quand même d'ouverture qui se fait au début des années 70 pour lui. D'une certaine manière, il n'a aussi plus rien à perdre. Enfin, sa carrière de compositeur est derrière lui. Mais il connaît de grands bonheurs à avoir notamment ses opéras qui avait été interdit depuis les années 30, qui avait été modifié, qu'il avait dû réarranger. Il a le grand bonheur de voir ses opéras à nouveau monter, ce qui peut-être entraîne une sorte de libération chez lui et d'expression encore plus personnelle et encore plus intime par rapport à ce qu'il faisait auparavant.
Irina Shostakovich.
Notre dernier souvenir joyeux fut à Répineau, dans la maison des compositeurs. C'était au mois de mai, c'était le printemps, un printemps très chaud. Il y avait très peu de monde.
Dmitrich там начал работу над альтовой сонатой.
Дмитрий Дмитриевич a commencé à travailler là-bas, sa sonate pour alto.
Ну, как-то мы надеялись на лучшее.
Nous espérions un mieux.
Когда мы уезжали, в этот день пошел снег.
Quand nous sommes partis, la neige commençait à tomber.
Все стало такое черное, страшное.
Tout est devenu tellement noir et terrible.
J'étais en vacances lorsque j'ai appris, par la BBC d'ailleurs, lorsque j'ai appris sa mort.
Solomon Volkov.
Vous savez, les soviétiques ont retardé l'annonce de cette mort pendant plusieurs jours, car il fallait l'accord de Brezhnev. Lorsque j'ai appris cette nouvelle, je me suis rendu aussitôt à Moscou. Et j'ai compris que c'était la fin d'une époque. J'étais totalement dégoûté par les discours officiels et par la présence auprès du cercueil de ses ennemis les pires, par exemple comme Krennikov, qui est sans aucun doute responsable en partie de sa mort prématurée. Shostakovich avait prédit que ses ennemis seraient là.
Bertrand d'Hermoncourt.
Je suis même étonné qu'il n'ait pas écrit une musique grotesque et ridicule et ironique comme il savait si bien faire pour ses propres obsèques. Mais évidemment, oui, c'était le bal des hypocrites. Même s'ils l'ont combattu toute sa vie, ils avaient bien conscience aussi au fond d'eux que Shostakovitch vivrait bien longtemps après eux.
C'est un des compositeurs les plus joués, effectivement. Alors,
Grégoire Tosseur.
Un peu moins sa dernière période. Ses symphonies médianes, c'est-à-dire les 5, 6, 7, 8, voilà, sont vraiment jouées de façon très importante. Et dans le monde entier, oui, pas simplement en Russie. Et c'est vrai que c'est une musique qui amène à s'imaginer des choses, à avoir des images. Et je pense que c'est pour ça que l'impact est aussi à la fois immédiat et très fort et très durable, finalement.
C'est une musique très puissante.
Xavier Phillips.
Qui fait appel aux viscères. C'est une musique très forte. Et c'est une musique parfois très rythmique, avec une rythmique écrasante qui raconte beaucoup de choses de son univers, des choses qu'il a vécues, les horreurs qu'il a vues, même très jeune déjà. C'est une musique qui m'a toujours parlé parce que je trouve qu'elle réveille en chacun de nous une douleur, une angoisse, une colère, un sentiment de révolte. C'est une musique profondément humaine, qui parle au cœur. Pour moi, c'est la musique d'un homme qui a été brimé, ça se sent. Il a été brimé, il a été contraint, il a été forcé. Et en même temps, il a donné la pleine mesure de son génie dans cette étreinte forcée.
Pour bien comprendre Shostakovich, à mon avis,
Constance Frey,
il est très intéressant de pénétrer cette musique instrumentale à travers sa musique de chambre qui est totalement fascinante, qui est beaucoup plus proche, beaucoup plus autobiographique quelque part, parce que elle attire moins l'attention. La symphonie, c'est un genre en Union soviétique, en URSS, qui est un genre valorisé par les hautes instances. C'est un genre qu'on considère comme un genre russe, donc rattaché à une tradition locale. Le quatuor, lui, échappe un peu à cette situation emblématique et c'est là qu'il va glisser, au fond, ses plus belles pages autobiographiques et ses plus belles pages en termes d'expression musicale et ses dénonciations, etc. Donc si on lit vraiment la musique des 15 quatuors à cordes, qui arrive jusqu'à la lisière de sa vie, jusqu'au terme de son existence, parce qu'il arrête en 1974 alors qu'il décède un an plus tard à peine, on va trouver ici un fil conducteur extrêmement intéressant.
C'est un musicien qui parle pour lui-même et qui parle aussi au nom de son peuple. Grâce à sa musique, grâce à son art, il arrive à résumer l'histoire d'un pays, un siècle de dictature et d'humiliation du peuple par les sons. Et ça, c'est vraiment un exemple unique dans l'histoire de l'art.
C'était Dimitri Shostakovich. Celui qui a des oreilles entendra, par Marie-Hélène Bernard et Jean-Philippe Navarre.
Ce qu'il espérait, c'était que la mort libérerait sa musique, la libérerait de sa vie. Le temps allait passer, et les musicologues auraient beau poursuivre leur débat, son œuvre commencerait à exister par elle-même. L'histoire, comme la biographie, s'estomperait. Peut-être qu'un jour, le fascisme et le communisme ne seraient plus que des mots dans les livres scolaires. Et alors, si elle avait encore quelques valeurs, et s'il y avait encore des oreilles pour entendre, sa musique serait juste de la musique.
Une vie, une œuvre, avec Bertrand d'Hermoncourt, auteur d'une biographie consacrée à Shostakovich. Constance Frey, musicologue. Xavier Phillips, violoncelliste, Grégoire Tosseur, musicologue et auteur du livre « Les dernières œuvres de Shostakovich ». Et aussi, par ordre d'apparition, les voix d'archives de Tikhon Krenikov, dirigeant de l'Union des compositeurs, Yuri Lyubimov, metteur en scène, Maxime Shostakovich, fils du compositeur, Galina Vishnevskaya, chanteuse, Lucia Catala, éditrice, Irina Shostakovich, épouse du compositeur, Valentin Berlinski, du quatuor Borodine, Evgeny Evtushenko, poète, et Solomon Volkov, écrivain. Texte lu par Renaud Bertin. Extrait des lettres à un ami, écrites par Shostakovich à Isaac Glickman, de témoignages de Solomon Volkov et du fracas du temps de Julian Barnes. Merci à Emmanuel Hudviller du Centre Shostakovich à Paris. Prise de son, Olivier Dupré. Mixage Manuel Couturier. Documentation INA Aude Vincent et Hervé Evano. Attaché de production Claire Poinsignot. Coordination Irène Omelianenko.
Cette émission est disponible en podcast et réécoute sur le site de France Culture. Dans quelques instants, rendez-vous avec Étienne Klein pour la conversation scientifique. Et samedi prochain, Une vie, une œuvre sera consacrée au philosophe Pierre-Joseph Proudhon.